Il est 8h20, bah on va demander leur avis à nos deux invités, Daniel Cohn-Bendit, Romain Goupil.
Sur le film, effectivement, on démarre par une question et après, on n'a aucun discours. On n'y va pas pour démontrer quelque chose. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Se poser des questions, s'interroger, c'est le but. Il y a même des séquences qui sont contradictoires, les unes avec les autres. Des gens qui sont plutôt enthousiastes ou des gens qui cherchent. Mais à chaque fois, et c'est ça qui m'a étonné, moi, puisque je vais plutôt avec l'idée d'une France moisie, d'un truc... il y a une envie de faire des choses, de trouver des solutions, de discuter et de discuter avec Dany. Une envie incroyable, c'est-à-dire qu'il y a les caméras et ils ne regardent jamais les caméras. Ils veulent absolument toujours discuter, essayer, de, comme s'il y avait un manque d'écoute, un manque de parole et que Dany représentait quelque chose à leurs yeux, la révolte, l'idée que peut-être proche de Macron, ça pourrait changer. Je ne sais pas, il y a quelque chose, une alchimie incroyable qui se passe, qui fait qu'on reste avec les gens, on les écoute et nous, on donne absolument aucune leçon. C'est voir ce qui se passe dans le pays. Alors, cela dit, c'est vrai que les gens qu'on voit, probablement aussi, ce que les choix que je fais au montage vont dans une direction particulière qui est le contraire de ce que je pensais. Moi, j'ai
qu'est-ce
été
que vous avez
très,
fait,
très surpris.
Qu'est-ce que vous avez fait tomber, comme on dit ? Qu'est-ce que vous avez découpé et qu'on ne verra pas, Romain Goupil ?
Ce qu'on ne verra pas, c'est des choses...
C'est le secret du cinéma.
Mais je suis obligé de lui poser la question.
Non, mais c'est pas ça. C'est que tu veux garder en longueur, si par exemple tu veux rendre compte du boulot qui se passe dans l'hôpital avec toute la nuit, puisque là c'est le seul endroit où tu bosses 12 heures et après 12 heures, c'est une exception dans le droit au travail, pour que les équipes, il n'y ait pas trop de relais et pas de pertes par rapport aux patients, ils bossent 12 heures d'affilée et après 12 heures une autre équipe. Et là on est resté 12 heures avec eux. Si tu veux faire rendre compte de ces 12 heures de boulot, et ben forcément tu vas rester un peu en longueur. Sans ça, ça n'a aucun intérêt. On ne va pas venir interroger en disant c'est dur, c'est pas dur. On n'est pas dans un truc de journaliste. On veut rendre compte, être proche. Et forcément, ça va faire tomber une autre séquence où là, on reste dans une usine longtemps. Donc, plutôt que de mettre à moitié d'un truc et la moitié d'un autre truc, rester en longueur au commissariat, rester en longueur avec le pêcheur, partir avec lui sur le bateau. Donc, forcément, ça fait sauter des trucs plutôt que tous les rogner.
Daniel Cohn-Bendit.
Moi, je crois que ce qui vient d'être décrit est dans le film. Mais ce n'est qu'une partie. Et je trouve que c'est un film qui est aussi très optimiste. Il y a des tas d'experts. Moi, je suis, quand on est dans cette usine ou cette entreprise de glace, une SCOP qui a été reprise par les salariés, c'est le rêve de l'autogestion, mais pas il y a 50 ans, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ça marche. Et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans les discussions. Donc, celui de la CGT qui a été le moteur, qui est vraiment un type formidable, qui encourage ses 20 salariés, etc. Ils ont une échelle de salaire très... Eh bien, ce qui est formidable, c'est d'un côté, lui, il dit... Une entreprise multinationale, c'est le profit. Et puis après, il y a une salariée qui dit « C'est formidable, notre entreprise, mais il faut toujours conquérir des parts de marché. »
Alors, c'est justement ce que disent Boltanski et Chiapello, donc deux sociologues dans un
ils
livre...
Ils ont vu le film ?
Non, je vais vous dire ce qu'ils disent. Dans un livre intitulé « Le nouvel esprit du capitalisme », ils disent finalement « Mai 68, ça aboutit à promouvoir les valeurs du capitalisme. » Et lorsqu'on... vous entend dire, voilà, ce sont des scènes optimistes. Alors effectivement, on voit ces ouvriers qui aujourd'hui fabriquent des crèmes glacées alors qu'ils expliquent que sinon leur boulot était condamné à disparaître. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de vérifier ce que disent Chiapello et Boltanski dans ce livre où ils expliquent que mai 68 c'est une ruse de la raison ?
C'est l'argument qui est vieux de plusieurs siècles. Toute lutte ouvrière améliore le capitalisme. Jusqu'à l'abolition du capitalisme. On verra. Mais à chaque fois que les ouvriers se battent pour améliorer leur situation, ils améliorent le capitalisme. Donc vous allez me dire, il faut arrêter de se battre, comme ça le capitalisme ne deviendra pas mieux.
Je ne vais rien vous dire.
Mais si, c'est de l'idéologie pure.
Boltanski et Chiapello.
On peut discuter de l'idéologie. Ce film n'est pas idéologique. Et je ne veux pas me poser dans un débat idéologique. Les gens qui se battent,
bah,
pour
c'est
leur
quand même
emploi...
pas un gros mot, Daniel Cohn-Bendit, l'idéologie.
Non, mais, regarde, non, mais ce n'est pas un gros mot, mais quand on fait un film, oui.
Pourquoi ?
Ben parce que c'est chiant. Ben je veux dire, si je me mets avant en voix off à faire toute une idéologie du capitalisme, ben j'écris un bouquin, mais je fais pas un film.
Regarde ce qui se passe dans le film. Tu viens de dire exactement ce que dit Éric Piolle. J'ai des soucis quand je me cogne au réel, c'est-à-dire administrer avec des j'ai été élu. Donc, et il y a une fraction de mon électorat qui considère que faire de l'aide sociale, ça aménage le capitalisme, ça simplifie. Donc, on est en train de et ils ont brûlé les bagnoles des assistantes sociales. Bah, effectivement, il le dit, on le dit ce problème, on l'évoque, mais on n'a pas de solution. On laisse simplement parler Éric Piolle qui dit comme maire, effectivement, il y a une partie de la gauche radicale qui dit que de toute amélioration est une façon d'améliorer le système de la ville. Oui, bien sûr, c'est exposé, on se pose ce problème.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi le désenchantement du politique 50 ans après, et même Macron en serait l'incarnation ou l'illustration, parce que cette séquence d'Éric Piolle qui dit que quand on veut faire 100, finalement on fait 10, quand on exerce un mandat, ou la séquence de l'ouvrière qui dit que pour sauver son propre emploi, finalement elle a dû le racheter, elle a dû investir. Là, il y a quand même un laisser-faire face au chômage de masse.
Mais la vie.
Le désenchantement même
quand
de la politique.
Quand on est en couple, on veut faire 100 et on est content si on arrive à faire 30. Enfin, il faut arrêter. On a des espoirs et la réalité t'oblige à réajuster ce que tu veux faire. La politique, c'est ça. C'est d'avoir des espoirs, même avoir des utopies et après aller le plus loin possible, te confronter.
On connaissait des gens qui disaient demander l'impossible.
L'impossible. C'est ça l'impossible. J'ai pas dit qu'il fallait pas avoir des espoirs.
Non, mais se satisfaire de la frustration.
Quand tous les matins t'es frustré ici à ton antenne parce que t'arrives pas à dire tout ce que tu veux.
J'essaye de l'être le moins possible.
Ben oui, et ben voilà. Et Éric Piolle essaye de l'être le moins possible. C'est ça la politique.
Mais même moi, comme réalisateur ou même comme révolutionnaire, à un moment, je pense que c'est bien de créer un homme nouveau. Que c'est bien ce que je pense, comme trotskiste, et que cet imbécile de Cohn-Bendit avec ses bêtises anarchistes ou ses connards de maoïstes, c'est des crétins. Donc je veux prendre le pouvoir, je mets tout en place pour faire une insurrection, une grève insurrectionnelle, faire la dictature du prolétariat, et immédiatement, puisque j'ai moi l'idée de ce que ça va être très bien un homme nouveau, très bien un autre fonctionnement, très bien nos rêves, cette utopie, elle est sanglante. Cette utopie de croire que tu détiens la vérité, que tu vas l'imposer aux autres, et dans un film, et dans la vie, et comme militant révolutionnaire, est une utopie sanglante.
Ludovic Piétenu a évoqué votre rencontre avec Emmanuel Macron, qui a été largement commentée, avec un caractère un peu surréaliste. Vous êtes tous les deux, Romain Goupil, Daniel Cohn-Bendit, vous discutez, et lui, il est au milieu, d'ailleurs on ne le voit pas tout de suite, et finalement il apparaît, il est là, il assiste à vos joutes oratoire, là on est quelques mois après, est-ce que sur Emmanuel Macron, votre jugement a varié? Qu'est-ce que vous pensez de cet exercice du pouvoir, exercice de la frustration? Alors, écoutez, vous disiez tout à l'heure.
Nous, c'est simple, arrêtez d'avoir l'image du compagnon de route stalinien. Du compagnon de route stalinien qui dit « Aragon, vive la GPU, c'est formidable l'Union soviétique, quoi qu'il fasse ». Donc nous ne sommes pas des compagnons de route. Et nous le disons, sur l'immigration, nous publions des tribunes en disant c'est complètement, cette loi ne sert à rien, elle est fausse, ce ministre de l'Intérieur est impossible et tout ça. Donc c'est pas, on n'est pas muet. Hein. Je dis simplement, ce président-là, à ce moment, c'était face au choix. Si vous me dites, est-ce que vous préférez Macron à Mélenchon ou à Marine Le Pen? Oui. Si vous me dites, est-ce que Macron, c'est la fin de votre rêve et de votre utopie? Non. Ben c'est bien simple. Il faut arrêter comme ça. Et nous, je vous le dis ici à l'antenne, on lui dit, on lui dit à lui, etc. Sur l'Europe, il fait le job, il est très très fort, il essaye de bouger l'Europe et c'est pas possible, c'est difficile et on va voir avec l'Italie, etc. Sur la politique ici, eh bien, je crois, par exemple, tout à l'heure, il a un pari. Ils veulent pas baisser l'aide sociale. Il dit, on baisse l'aide sociale. C'est ce qu'ils disent. Si on fait baisser le chômage. Eh ben oui, ben s'il baisse le chômage, l'aide sociale, l'aide au chômage va baisser. Enfin, alors s'il baisse pas le chômage et il baisse les aides sociales, alors c'est un mensonge.
S'ils annoncent ça, la baisse des aides sociales dès cet été, on sera toujours sur un chômage de masse à plus de 3 millions.
S'ils annoncent ça, c'est faux. S'ils annoncent ça, c'est-à-dire qu'ils disent on va, en fonction de la baisse du chômage, les aides sociales vont baisser, c'est juste.
Est-ce qu'ils veulent pas juste baisser la dépense publique de façon...
Monsieur Soleil, vous le savez, c'est possible, vous avez peut-être raison, je dis, moi j'entends ce pari, donc si cet été ils me disent, ben le chômage a baissé, il a baissé d'à peine 1%, ce qui va dans la bonne direction, alors vous ne pouvez pas faire ça. Voilà ce que je dirais, ce que j'écrirais.
Il n'y a pas que de la politique dans ce film.
Il n'y a pas du tout de politique.
Il y a aussi des paysages, il y a aussi la France. Qu'est-ce que vous avez aimé filmer justement dans cette France-là, dans les vaches que l'on voit dans nos campagnes, dans les différents paysages que vous apercevez au moment de la journée que vous préférez, Romain Goupil?
Il y a quelque chose qu'on va découvrir et que le spectateur ressente en même temps que nous, que la mousse, l'herbe, la flotte, les animaux, les gens qui s'en occupent, il y a quelque chose dans ce pays d'absolument magnifique. D'attendre un nuage, c'est pas un nuage français, c'est un nuage, une lumière. Il y a quelque chose qui se passe, qu'on essaye de transmettre avec la caméra, qui est lié aux discussions, qui est lié à cette écoute, qui est lié à... Et il y en a 5 ans des rencontres. Donc là, on est en train de discuter d'une complètement extraordinaire, celle du président de la République quand même, qui nous demande avant, alors où vous en êtes de votre film, comment ça se passe, votre truc en France, vous me raconterez, ça c'est hors caméra. Et on lui dit, mais viens, et on va t'interroger. Mais comme un des 50,
justement, on va discuter. Parlez-nous des 49 autres et de ces Français anonymes, Français ordinaires que vous avez filmés, Daniel Cohn-Bendit.
C'est anonyme, ordinaire, pourquoi essayer de les décrire? Ce sont des gens qui travaillent. Par exemple, donc on a des agriculteurs, on a un agriculteur éleveur de cochons qui n'y arrive pas, on a une famille d'agriculteurs qui était près de la faillite, qui aujourd'hui est heureuse parce qu'ils ont diversifié, ça marche. On a ce fameux Régis Minguy, qui avait attaqué Lactalis et qui Lactalis lui avait enlevé la distribution.
Producteur de lait,
il s'est sauvé, il a une coopérative qui l'aide, etc. Voilà, on raconte des histoires, on est dans une séquence incroyable avec un ouvrier de Meurthe,
de Sambre-et-Meuse.
L'équivalent
de Billancourt, quoi.
Une immense usine complètement désaffectée, s'écroulant. C'est une cathédrale qui s'effondre. Il y avait 2600 salariés. Il n'y a plus rien. Tout est cassé. Et on traverse cette usine et il nous raconte un peu sa vie. Donc c'était une France industrielle qui a disparu. On est avec des musulmans. Et de la difficulté, etc. On est avec des jeunes filles musulmanes qui nous expliquent leur vie difficile ou leur vie d'ailleurs facile et beaucoup plus apaisée qu'on ne le croit. On est avec des gens du RSA. On est avec un pêcheur de bar. Le bar se pêche à la ligne. La plupart des gens ne le savent pas encore.
Il y a une jolie scène de pêche sur un bateau.
Oui,
il y a le fait qu'on part avec lui. On ne sait pas. On ne sait pas si la pêche va être bonne. Moi, je ne sais pas à la caméra ce qui va se passer. Et pour choper le poisson, mais même pour filmer, il va y avoir un truc après, un espèce de fou rire sur le bateau parce qu'ils sont toujours en train de l'attraper pendant que moi, je filme autre chose. Et donc, je ne le vois pas, moi. Et eux, ils sentent et on se repère comme ça. Et à la fin, on filme plus. On est tous les quatre en train d'essayer de pêcher le bar pour voir si qu'on ramène. On va ramener ça sur le port. Le film, il a quelque chose de super, c'est que les séquences veulent rien démontrer. Donc à chaque coup, tu découvres quelque chose, tu découvres un autre univers, t'es d'accord ou pas d'accord, et il y a des points où ça bloque, c'est-à-dire c'est traversé, stop, il y a une impasse, et on est en prison. On est en prison, dans une prison à Melun, où c'est des très longues peines, c'est des mecs qui ont pris 30 ans, 20 temps et on parle avec eux et on les écoute et on déconne pas du tout de ce qu'ils ont fait, pas de la peine, on parle comme ça, on les interroge sur ce que ça veut dire d'être coincé.
Où on est avec ceux qui aident les migrants dans les vallées à la vallée de la Roya, c'est quelque chose de très prenant, enfin je veux dire c'est une diversité incroyable et c'est un film non idéologique.
On va justement écouter ce prêtre qui aide les migrants dans la vallée de la Roya.
Mercredi soir, on en a évacué 3 que nous logions ici, que nous cachions. À peine ils sont partis, il y en a eu 2 qui venaient les remplacer. Hier matin, je descendais en car à Menton et sur la route, il y en avait 10 qui montaient là en dessous à Port, qui montaient. Le soir, quand je suis repassé la Fanghetto, Il y en avait 10 de ces migrants qui avaient été coincés par les gendarmes, l'armée, tout ça, qui étaient assis par terre. Et malheureux. C'est pas possible. Bon, nous, on est submergés, non pas pour les aider, on veut bien les aider, mais de jouer à cache-cache en permanence avec la police, la gendarmerie, qui applique des ordres bêtes et méchants, parce qu'après, nous pouvons les amener tranquillement à Nice. Enfin, tranquillement, façon de dire, en prenant peut-être beaucoup de risques nous-mêmes, mais enfin, sans plus avoir la hantise d'être arrêté en cours de route.
Romain Goupil. Un extrait donc de ce film qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 20h50, La Traversée.
C'est un extrait où il se passe quelque chose d'incroyable. Même moi, j'ai pas réagi tout de suite, mais c'est la seule personne qui vous voit. Il y a dans cette église que tu vous vois, ouais. que Dany vous voit. C'est la seule. Pourquoi ça se fait comme ça, je sais pas. Daniela, il va dire, mais c'est très étonnant. On ne filme, on traverse toute la France. On va dans le nord, dans le sud. On est à Paris et chaque fois on croise ce problème. C'est-à-dire, tu vas vers le nord, c'est Calais. Tu vas vers le sud, l'Italie, c'est La Roya. Il y aurait plein d'autres endroits. Mais dans notre périple, dans ces déambulations, on croise aussi le centre de réfugiés avec tout, pas assez, quelques-uns qui sont accueillis au centre de réfugiés de La Chapelle. Donc c'est réellement un problème. On est en train de se balader en France et on se cogne par 3 fois, 4 fois, même avec Aminata et Fatou qui ont fait la grève dans le salon de coiffeuse, boulevard de Strasbourg.
Daniel Cohn-Bendit.
Oui, c'est ça. Je voudrais que... Parce qu'il y a eu tout ça, cette idée. Maintenant, c'est un film avec Macron sur Macron. Macron, c'est 5 minutes, 35 secondes, 3 cinquièmes, 4 centièmes. Il faut arrêter. C'est une scène d'une traversée. C'est une traversée qui raconte, qui rencontre des gens qui pensent pas la même chose, qui ont ces trois émigrés qui ont été régularisés, qui travaillaient dans un salon de coiffure boulevard Sébastopol, etc. C'est une belle histoire. Vous avez une militante de la CGT qui explique sa lutte avec ses femmes, etc. Donc, je voudrais simplement qu'on ne croie pas que ça soit une démonstration. Je veux bien qu'on dise que c'est la France de Macron, si on dit c'est la France d'aujourd'hui. On traverse la France d'aujourd'hui avec des gens, un dîner avec 25 personnes militantes d'extrême droite, c'est assez spécial, voilà.
Et même un verre en terrasse avec un autre militant d'extrême droite dont on apprend, moi j'ai appris, que c'était un ancien gauchiste. Il s'agit de Robert Ménard, le maire de Béziers.
Comment, ça je comprends pas, comment t'as pu arriver là où tu es avec une politique de haine, tu vas voir des réfugiés, tu disais, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Comment tu arrives à ça?
Parce que tu parles de quelque chose que tu connais pas. T'es le stéréotype du mauvais journaliste. T'es le type qui...
Non mais attends,
tu me poses une question, je te réponds.
Ouais.
Tu es le stéréotype du mauvais journaliste, c'est-à-dire celui qui pose des questions sans avoir avant tout vu ce qui se passait, mais à partir de ce que tu as lu d'autres
jours. Mais tu ne comprends pas, je ne vois pas la continuité.
La continuité, mais elle est de tous les jours. Moi, ce monde, contrairement à la bourgeoisie de droite et de gauche, je le trouve dégueulasse. Dans cette ville, t'as des mecs, c'est une vie de merde. Les gens, ils sont malheureux. La seule chose que je veux, c'est changer ce monde. Moi, je suis, contrairement à tout un tas de gens, j'ai exactement les mêmes ambitions qu'à 18 ans. Ce monde, je le dégueule tous les jours. Et je le dégueule avec les plus pauvres qui sont d'accord avec moi. Il faut apporter des réponses, sinon je ne sais pas comment ça finira.
Romain Goupil.
Mais ça, c'est une séquence vraiment importante dans le film sur la façon dont il filme. Je ne comprends pas, répète. Qu'est-ce qui se passe? Et il le laisse parler. Et moi, je comprends que je ne comprends pas non plus ses réponses. J'arrête de filmer, je viens discuter et je dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'avant...
Il y a une deuxième caméra qui est là.
Je ne comprends pas comment tu réagis par rapport
comment à... Comment Robert Ménard, donc, ancien gauchiste, devenu aujourd'hui maire d'extrême droite de Béziers?
On lui pose cette question et on comprend dans le film comment il fonctionne, lui. Il dit, je me mets à disposition des plus pauvres qui savent très bien que je peux rien pour eux. Il dit, moi je les écoute à la différence de vous. C'est-à-dire qu'on laisse ce passage. Ménard s'exprime, donc tu peux te poser une question. Et à chaque personnage et chaque séquence, c'est le mieux du mieux si tu t'interroges. Si pas du tout que t'es convaincu, ça cogne par rapport à des associations d'idées que tu peux te faire, ce que tu connais, ce que t'as vu comme autre film ou ce que tu lis. C'est ça, en ça que la séquence avec Ménard, j'aurais pu la couper au montage. Elle n'est pas spécialement à notre avantage.
Daniel Cohn-Bendit.
Oui, je voudrais vraiment... Moi, le plaidoyer, ou ce qui m'a plu en faisant ce film, c'est vraiment d'aller à la rencontre, évidemment que j'ai des préjugés, mais de les mettre de côté. Quand je vais discuter avec 25 militants ou affiliés plus ou moins au Front National, j'ai envie de les écouter, mais j'ai envie de comprendre.
Justement, quand il vous parle, quand Robert Ménard vous parle, puisque malgré tout... Il a un discours face à vous où il explique que son travail, c'est d'être empathique. Son travail, c'est d'écouter une souffrance que vous, Romain Goupil, Daniel Cohn-Bendit, vous ignorez ou vous ne voulez pas voir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, on ne l'ignore pas. C'est pas ça. C'est que je pense que si la gauche, si ceux qui ne veulent pas de tout ce que véhiculent maintenant la droite et l'extrême droite, il faut qu'ils soient capables aussi d'écouter... Et il soit capable de donner des réponses, et pas seulement d'écouter, à ceux qui n'y arrivent pas. C'est une véritable question. Voilà ce que j'en pense. Et je trouve que dans Ménard nous met devant nos contradictions politiques, nous, je veux dire, en général, France Culture, France Inter, tous les bien-pensants de ce monde, nous met devant cette contradiction de l'incapacité, des fois, à trouver des réponses à des problèmes. Voilà, c'est tout. Et ce film, la France est un beau pays. C'est des paysages admirables. La France a des gens admirables, des gens détestables, des gens admirables, mais qui forment un tout. Qui forment un tout. Et c'est ça un peu. On traverse ce tout et après chacun en prendra ce qu'il veut. Et c'est pas le Capital tome 35, hein. C'est un film, c'est un documentaire sur la France d'aujourd'hui. Faut pas exagérer maintenant d'un côté comme de l'autre.
Romain Goupil, justement sur cette France d'aujourd'hui, vous nous avez dit que vous l'avez traversée, vous êtes tombé sur les mêmes problèmes. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas filmées, que vous auriez eu envie de filmer, puisque la politique c'est un exercice de frustration en matière de cinéma
non. Le vrai film et la vraie douleur, c'est après une centaine d'heures de rush et ses 1500 bornes et ses mois de tournage, c'est les 4h30. 15 000 bornes. Les 15 000 bornes et puis ce fonctionnement où on a été filmé beaucoup, beaucoup d'endroits, beaucoup de rencontres. Le film, c'est 4h30. Et là, ça devenait impossible. Donc la vraie frustration, c'est pas de continuer, c'est déjà ces 4h30, pouvoir les montrer, peut-être un DVD, peut-être. Il y a quelque chose de magnifique quand c'est en longueur aussi, et que je supprime pas au montage pour arriver à réduire et que ça soit visible ce soir.
La frustration, je vais vous dire, c'est de pas pouvoir continuer. On va à Cannes, on est dans le train, seconde. Là, évidemment, le contrôleur vient me voir, il vient discuter. Il est de la CGT. C'était une discussion passionnante, vraiment passionnante. Il expliquait ses problèmes. C'était loin du discours.
Qu'est-ce qu'il nous disait ?
Il nous disait, écoutez, moi, j'ai un problème. Je vais te dire, écoute. Voilà. Quand t'es à la CNCF, comme moi, tu as des fenêtres de vacances. Juin, juillet, août, septembre. Si t'as des enfants, tu as de la chance, peut-être, une fois sur quatre, de passer tes vacances d'été avec tes enfants. Ou moi avec ma femme, dit-il, parce que on me dit tu vas faire ça en juin, tu vas faire ça en juillet, on te dicte quand tu vas faire tes vacances. Et ma femme qui travaille autre part, elle a toujours en août, donc à chaque fois que je viens en août, ça va. C'est des problèmes comme ça qui montrent la réalité au-delà du discours idéologique de ce que ça veut dire de travailler à la SNCF. J'ai pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. Je dis c'était si j'avais une, on avait une caméra et tout ça, c'était voilà, on vous continue, voilà une traversée de la France. Écoutez les gens, n'allez pas voir les discours politiques. au-dessus, mais dans la réalité du quotidien des uns et des autres, eh bien, on apprend énormément de choses.
Romain Goupil, un mot de conclusion.
Sur la conclusion, c'est qu'on a essayé de faire ce film le mieux qu'on a pu. C'est assez long, c'est une entreprise qui était tout à fait passionnante. Est-ce qu'on a transmis ça? Moi, je pense que oui. C'est une politique de l'offre. C'est ce soir à 20h50 sur une chaîne hertzienne. C'est-à-dire que le maximum de gens, par rapport à un film, on est inquiet sur la sortie, la météo, le fait qu'il y a la concurrence et les autres. Là, il y a possibilité de voir ce film, de réfléchir par rapport au personnage qu'il y a dans ce film. C'est pour moi une expérience absolument magnifique d'être en liberté pour pouvoir proposer ça ce soir et d'avoir été sélectionné à Cannes et que vous nous invitiez. Tout ça est quand même, pour un documentaire, un reportage, quelque chose qui est une expérience superbe, mais vraiment superbe.
On vous souhaite un bel orage ce soir à 20h50 sur France 5.